Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous venons à nouveau à la parole de Dieu et Luc 20 est notre texte. Luc 20. Nous arrivons à la fin de ce chapitre et nous allons étudier les trois derniers versets. Luc au chapitre 20, des versets 45 à 47. Laissez-moi vous les remettre en tête. Suivez avec moi. Luc chapitre 20, commençons au verset 45. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robes longues et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Des mots forts, sans équivoque. En arrière-plan de ce texte et pour le placer dans son contexte large, nous devons nous souvenir que la Bible nous met en garde contre les faux docteurs du début jusqu'à la fin. Il y a toujours eu et il y aura toujours de faux chefs religieux qui œuvrent pour Satan. Ils prennent leur source dans le royaume des ténèbres, mais ils agissent comme s'ils étaient des messagers de Dieu. Dans le chapitre 20 du livre des Actes, l'apôtre Paul a rencontré des anciens Éphésiens et leur a dit ceci. « Durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » D'exhorter à quel sujet? Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils viendront avec des enseignements hérétiques. Attendez-vous à cela venant de l'extérieur et de l'intérieur. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 13 jusqu'à 15, l'apôtre Paul dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire qu'il vient comme s'il représentait Dieu. Alors ne soyez pas surpris si ces messagers sont aussi déguisés en anges de lumière. Les faux docteurs se revêtent d'habits de Dieu. Ils veulent que les gens croient qu'ils représentent Dieu, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ont la compréhension de la spiritualité et de la vérité divine et de la sagesse divine, même s'ils sont les émissaires de l'enfer lui-même. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée pour l'aider à comprendre le ministère dans l'Église, dit ceci dans 1 Timothée, chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Une doctrine démoniaque activée par des esprits démoniaques au travers de faux docteurs hypocrites qui mentent. 2 Pierre 2, 1 dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Vous vous souvenez bien sûr des paroles de Jude. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Attention! Prenez garde aux faux prophètes. Comme nous le lisons, il y a de nombreux antéchrists. Ils sont partout et vous qui connaissez la vérité devez vous protéger d'eux. Les faux docteurs n'ont jamais été aussi agressifs que pendant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était comme si l'enfer envoyait ses attaques les plus lourdes sur une personne, sur notre Seigneur Jésus, pendant ces 3 années. Et nous comprenons cela. Nous comprenons. Afin de contrecarrer les objectifs de l'Évangile de Dieu, Satan a déchaîné tout ce qu'il a pu sur Jésus-Christ. Et lorsque on se demande qui étaient les agents de l'enfer, qui étaient les agents de Satan qui ont tenté de se déchaîner contre les objectifs de Dieu, s'agissait-il des prostituées, des voyous, des voleurs? Non. Les émissaires et les agents de Satan étaient les plus dévoués, les plus religieux, les plus respectés chefs religieux d'Israël, les scribes et les pharisiens, avec les sadducéens et les hérodiens. Ils se sont tous ligués contre Jésus-Christ. Ils ont assemblé toute leur capacité spirituelle démoniaque pour l'attaquer, pour le mettre à terre, pour dérouter les objectifs de Dieu. Gardez à l'esprit que les ennemis de l'Évangile étaient et sont toujours les plus impressionnants lorsqu'ils sont religieux. Surtout les pharisiens et les scribes, car ils contrôlaient la religion dominante du judaïsme de l'époque. Ils sont implacables dans leurs attaques envers Jésus. Ils ne s'entendaient pas avec les sadducéens, car ils avaient une théologie très différente. Ils ne s'entendaient pas avec les hérodiens, car les hérodiens étaient engagés dans la politique, et ils étaient attachés à Hérode, qui n'était pas juif du tout. Ils étaient très différents les uns des autres, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Mais sur un point, l'enfer les a rassemblés. Se débarrasser de Jésus. Le vendredi de la semaine de la Passion, ils ont réussi à faire ce que Dieu avait prévu. Ils ont réussi à le faire crucifier. Si nous revenons à Luc au chapitre 20, cependant, nous sommes le mercredi de la semaine de la Passion. Nous sommes mercredi. La journée a été longue, une longue journée pendant laquelle Jésus était dans le temple, se déplaçant parmi les nombreuses personnes dans le temple. Il enseignait la foule. Il s'était engagé dans une confrontation avec les pharisiens, les scribes, les prêtres principaux, les sadducéens et les hérodiens qui l'ont tous attaqué pour le discréditer publiquement, afin d'avoir une bonne raison de le faire exécuter. Car il était une telle menace pour le royaume des ténèbres et pour leur propre situation terrestre. Ils ont tout essayé et ils n'ont pas réussi. Nous lisons donc dans le chapitre 20, au verset 40, la chose suivante. Ils n'osaient plus lui poser aucune question. Ils avaient terminé. Ils avaient épuisé toutes leurs possibilités. C'était terminé. Ils ne lui ont plus posé de questions. Puis, nous avons vu dans le verset 41 que Jésus commence à poser des questions et avec miséricorde, compassion, bienveillance, il revient sur le sujet de l'identité du Messie, qui n'est pas seulement le fils de David, mais le fils de Dieu, le fils de Dieu. Dans les versets 41 à 44, vous vous souvenez de la semaine dernière qu'il les ramène dans le psaume 110, dans lequel David appelle le Messie « mon Seigneur ». Le Messie est donc à la fois le fils de David et le Seigneur de David. Il est donc un homme qui n'est pas encore né, mais il doit aussi être Dieu qui était vivant à l'époque de David. Dans un effort de compassion, Jésus affirme encore sa divinité et la nécessité que le Messie soit à la fois Dieu et homme. C'est un acte de compassion. Dans un sens, c'est son dernier acte de compassion de parler une fois encore de son identité de véritable Messie, fils de David, fils de Dieu. Il a maintenant terminé de parler aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens et aux hérodiens, sauf par nécessité lors de son jugement. Il a terminé de parler aux foules, au peuple, et au verset 45, il dit « Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples. » Il s'agit d'une transition. Les gens continuent d'écouter, mais ils se tournent vers ses disciples. C'est ce qu'il va faire à partir de maintenant. Plus de messages pour les foules. À partir de maintenant, il parle à ses disciples. C'est une transition très importante. Il a dit tout ce qu'il a à dire. Il n'y a plus rien à ajouter. Il a répondu à toutes les questions qui pouvaient être soulevées. Il se tournera et donnera des instructions à ceux qui le suivent toujours, leur montrant toujours de l'intérêt, cherchant toujours à apprendre de lui, le suivant toujours. Les attaquants sont partis et la foule se dissipe. Mais il y a un dernier message que tout le monde doit entendre, les disciples et le peuple. C'est le message des versets 46 et 47. « Gardez-vous des scribes ». Il continue avec cette mise en garde, le dernier message. Chaque fois que quelqu'un donne un dernier message, il est forcément important. Quelle est la dernière chose que Jésus veut dire aux foules? Nous voulons connaître ces dernières paroles. C'est une parole de mise en garde. Non seulement une parole de mise en garde, mais une parole de condamnation. Gardez-vous d'eux, ils sont dangereux et ils seront jugés plus sévèrement. Fin du verset 47. Il met donc le peuple en garde contre eux et il prononce une malédiction sur eux, Ce sont des paroles très fortes. Avant d'aller plus loin, laissez-moi replacer l'importance de ce texte dans un contexte actuel. Il y a quelques mois, j'ai écrit un livre appelé « La guerre pour la vérité ». C'est le dernier d'une série de livres que j'ai écrit au fil des années pour aborder ce que je pense être des erreurs dangereuses qui existent dans l'Église. J'ai écrit ce livre « La guerre pour la vérité » pour exposer et apporter le jugement de la parole de Dieu sur les aberrations et les dangers du nouveau mouvement appelé l'Église émergente ou le mouvement de l'Église émergente. Il s'agit de relativisme du post-modernisme qui corrompt l'Église. Il avance parmi les soi-disant évangéliques qui rejettent maintenant les certitudes doctrinales, la clarté des Écritures et l'exclusivité de l'Évangile. Je vais dire cela à nouveau. La marque de ce mouvement est le rejet de la certitude doctrinale, de la clarté des Écritures et de l'exclusivité de l'Évangile. C'est du néolibéralisme. C'est simplement le bon vieux libéralisme qui a détruit les grandes dénominations de ce pays. La vieille théorie hautement critique, le vieux libéralisme de retour sous une autre forme, si vous voulez, pour appeler à la camaraderie, à la collégialité, à la tolérance avec ceux qui ne croient pas à l'Évangile, qui ne croient pas que le christianisme est une vraie religion. Il loue les vertus du dialogue ouvert et généreux, plutôt que du dogmatisme. Il appelle au respect, à la tolérance et à la diversité. Et le pire, c'est qu'ils ont trouvé un mot qui définit ce qui marque le mouvement de l'Église émergente, c'est le mot « conversation ». C'est leur slogan. Ils veulent engager tout le monde dans une conversation afin que nous partagions nos points de vue spirituels. Un des leaders du vieux libéralisme était un homme du nom d'Harry Emerson Fosdick. En 1928, Fosdick dit ceci. De nombreux prédicateurs ont l'habitude de délivrer ce qu'ils appellent des sermons expositifs. Ils prennent un passage des Écritures et ils procèdent selon la supposition que des personnes qui assistent au culte ce matin-là sont très soucieux de connaître le sens du passage biblique. Ils passent une demi-heure ou plus sur l'exposé historique du verset ou du chapitre, en terminant par une application pratique destinée à l'auditoire. Ce procédé mène à coup sûr à l'ennui et à la futilité. Qui peut sérieusement supposer qu'en fait un membre de la congrégation sur 100 a de l'intérêt pour commencer parce que Moïse, Ésaïe, Paul ou Jean voulaient dire dans ces versets spécifiques ou est venu à l'Église avec un grand intérêt pour cela. Aucune personne qui s'adresse à un auditoire ne présuppose que l'intérêt vital d'une personne réside dans la signification de paroles prononcées il y a 2000 ans. Fosdick exprime donc une prophétie en 1928. L'avenir, dit-il, appartient à un type de sermon qui peut le mieux être décrit comme une aventure de pensée coopérative. La conversation. Une aventure de pensée coopérative, 1928. Tout récemment, en 2005, Doug Pagit, un des leaders du mouvement émergent, dit « Nos sermons ne sont pas des leçons qui définissent précisément la croyance, mais plutôt des histoires qui accueillent nos espoirs, nos idées et notre participation. Ayons une conversation avec ceux qui ne sont pas d'accord, une conversation avec ceux qui ont une autre religion, plus de dogmatisme. Nous mettons de côté la condamnation pour favoriser la conversation. » Brian McLaren, qui est un des auteurs principaux, sinon l'auteur principal du mouvement émergent, a sorti un nouveau livre qui s'appelle « Le message secret de Jésus ». Cela fait peur. Jésus n'a pas de message secret. Il a révélé son message. Mais il dit dans « Le message secret de Jésus », à l'époque du terrorisme mondial et des conflits religieux émergents, il est significatif de noter que tous les musulmans voient Jésus comme un grand prophète. Que de nombreux hindous veulent bien considérer Jésus comme une manifestation divine légitime, que les bouddhistes voient Jésus comme l'une des personnes les plus éclairées de l'humanité, et que Jésus lui-même était juif. Il dit « C'est super, nous aimons tous Jésus, commençons une conversation. » Il continue « Une réinterprétation partagée du message de Jésus pourrait ouvrir un espace ou une plateforme commune pour le dialogue religieux dont nous avons vraiment besoin. » Et il ne semble pas qu'il soit exagéré de dire que l'avenir de notre planète dépend d'un tel dialogue. Nous mettrions donc toutes nos différences doctrinales de côté pour sauver la planète et laisser les gens aller en enfer. Son dernier commentaire, cette réinterprétation du message de Jésus, peut être le seul moyen de sauver un certain nombre de religions, y compris le christianisme. Nous devons donc tous trouver le message secret de Jésus, qui est sans doute caché dans notre psyché spirituelle, et avoir une conversation. Au lieu de condamner ces autres religions, nous devons nous asseoir et avoir une conversation et apprendre de la spiritualité des autres, apprendre de leur expérience spirituelle, apprendre de Dieu au travers d'eux. Un autre grand avocat du mouvement émergent a un nom familier, Tony Campolo, qui est un orateur très populaire. Voici les paroles même de Tony qui nous donnent une idée de jusqu'où va ce mouvement. Je ne lis pas ce genre de choses d'habitude, mais je pense que c'est très utile pour se tenir au courant de l'actualité. Voici ce qu'il dit. Nous devons nous montrer du respect les uns aux autres et nous parler avec l'idée que même si les gens ne se convertissent pas, ils sont le peuple de Dieu. Dieu les aime. Il ne nous appartient pas de juger qui va au ciel et qui va en enfer. Je pense que ce que nous devons tous faire, c'est laisser ce jugement à Dieu. Ce que les musulmans ne feront pas, c'est condamner les juifs et les chrétiens à l'enfer si en fait ils n'acceptent pas l'islam. L'islam est bien plus gracieux envers les chrétiens évangéliques qui sont fidèles au Nouveau Testament que les chrétiens ne le sont envers les musulmans qui sont fidèles au Coran. C'est une réflexion intéressante. Il n'a évidemment pas lu les articles sur le massacre des chrétiens dans les milieux islamiques. Mais l'idée est d'être généreux avec tout le monde. Il continue en disant que Mohammed comprenait très bien qu'il y avait de grandes vérités dans le christianisme. Il était différent de nous en ce qu'il sentait qu'il était en possession d'une vérité plus complète et que l'islam dépendrait de cela. Mais Mohammed soutenait que nous serions finalement jugés selon la vérité que nous avions à notre disposition. Je pense que certains frères et sœurs musulmans sont prêts à dire qu'on vit la vérité au fur et à mesure qu'on la comprend. Je vivrai la vérité au fur et à mesure que je la comprends et nous laisserons Dieu faire son jugement le jour du jugement dernier. Je dois croire que Jésus est le seul sauveur, mais être chrétien n'est pas la seule façon d'être sauvé. Plus loin, il dit, nos frères et sœurs musulmans peuvent dire que l'islam est la seule foi, mais nous n'avons pas la conviction que seuls les musulmans apprécient le salut. Je ne suis pas convaincu que la grâce de Dieu ne va pas plus loin que la communauté chrétienne. Voici notre phrase. Ce que nous devons faire, c'est dire que nous croyons à différentes choses. Mais il y a tant de bonté dans la communauté islamique, elle ne peut pas être ignorée. Il me semble que lorsque nous écoutons les mystiques musulmans parler de Jésus et de leur amour pour Jésus, je dois dire que c'est bien plus proche du christianisme du Nouveau Testament que beaucoup de chrétiens que j'entends. Autrement dit, si nous cherchons un terrain d'entente, nous pouvons le trouver dans la spiritualité mystique, même si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur le plan théologique. Pouvons-nous prier ensemble de telle façon que nous nous connectons à un Dieu qui transcende nos différences théologiques? C'est de la conversation. On peut la concevoir avec tout le monde, car il n'y a pas de clarté doctrinale. On ne sait pas quelle est la réelle interprétation des Écritures. En janvier 2006, le groupe émergent des États-Unis a rencontré Synagogue 3000, une conversation interreligieuse centrée sur les thèmes de la communauté sacrée, de l'apprentissage et du culte. Un blog juif, appelé Synablog, rapporte ce qui s'est passé. Synagogue 3000 a identifié un phénomène religieux juif contemporain appelé émergent juif. Cette semaine, de Synagogue 3000 a convoqué pour la toute première fois un groupe de travail sur les communautés sacrées émergentes. Les leaders juifs engagés à l'établissement de communautés sacrées transformatives non liées par les attentes conventionnelles de ce qu'une synagogue est supposée être. L'église émergente, c'est leur slogan. Trouver une église qui ne soit pas liée à l'idée conventionnelle d'une église. Les juifs se joignent alors au mouvement. Ils ne vont pas se laisser lier par des idées conventionnelles de ce qu'est une synagogue. Afin d'enrichir la conversation, Synagogue 3000 a invité les membres du groupe de travail pour échanger des idées avec les leaders chrétiens visionnaires membres d'émergents USA. La rencontre du groupe de travail sur les communautés sacrées émergentes marque la toute première fois qu'émergents USA se réunissaient avec un groupe religieux en dehors de la foi chrétienne. C'était intéressant, motivant et historique. Un peuple émergent est un environnement parfait. On s'y joint pour apprendre en quoi consiste leur spiritualité et quelle est leur connaissance de Dieu, et en échange une conversation. De cette conversation sort comme une illumination avec les membres du judaïsme ou de l'islam ou du mormonisme ou du catholicisme romain, de la religion orthodoxe grecque ou des témoins de Jéhovah ou qui que ce soit. Tout ceci pour dire la chose suivante. Lorsque j'ai écrit « La guerre pour la vérité », le livre, j'étais curieux de voir comment il serait reçu. Les gens de l'église émergente ne l'ont pas aimé. Je n'étais pas surpris. Voici quelle a été leur réponse. Le livre divise. Ils ne communiquent pas l'amour. Le livre est intolérant. Et ils ont dit que si j'aimais vraiment les gens et si j'avais vraiment l'esprit de Jésus, je me joindrais à la conversation avec humilité et je serais ouvert au point de vue spirituel des autres religions. Conversation. pas de condamnation. De plus, comme cela devient de plus en plus populaire de nos jours, les Juifs n'ont pas besoin de croire en Jésus de toute façon. Ils ont un autre chemin qui mène au salut. En réponse à cette critique, pourquoi ne pas me joindre à la conversation? Je n'ai qu'une seule question à poser. La voici. Comment Jésus a-t-il traité ceux qui ne croyaient pas à la vérité? Comment Jésus a-t-il traité ceux qui ne croyaient pas à la vérité et qui étaient totalement religieux, qui mettaient la spiritualité au sommet de l'expérience humaine? Comment Jésus a-t-il traité les religieux, les responsables religieux? A-t-il eu une conversation avec eux, ou bien a-t-il utilisé la condamnation? Parce que je veux simplement faire ce que Jésus a fait. Clairement, Jésus ne s'est pas engagé dans la conversation postmoderne. Il ne s'est pas impliqué dans un dialogue relativiste abstrait sur des thèmes de la spiritualité, répandant des idées sur Dieu et des idées sur lui-même en tant que Jésus, des idées qui sont aussi flexibles que du caoutchouc. Voici les dernières paroles de notre Seigneur concernant les responsables religieux. Il s'agit bien de religieux, de chefs religieux juifs. Ce qu'il dit ici n'est franchement pas nouveau. Retournez au chapitre 11 de Luc, ce n'est pas nouveau, au verset 37 notamment. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. C'est ici une parfaite occasion d'avoir une conversation. Ce n'est pas une situation officielle, ce n'est pas une synagogue, ni un sermon, ni une réunion publique dans le temple. C'est un déjeuner dans la maison du pharisien. Il entra et se mit à table. Le pharisien devait avoir invité d'autres pharisiens aussi. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Il n'a pas suivi la règle pharisaïque des ablutions cérémoniales. Il s'est simplement assis et il a mangé. Voici ce que le Seigneur lui a dit. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. C'est une conversation courte. C'est une conversation qui ne mène nulle part. Et pour empirer les choses, au verset 40, il est écrit, « Insensé. Celui qui a fait de dehors, n'a-t-il pas fait aussi de dedans ?» Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, c'est une malédiction. Pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lequel on marche sans le savoir. Dans Luc 12, 1, il est écrit « Les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples « Avant tout, gardez-vous du levain, ou de l'influence, des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché. Les hypocrites cachent des choses. Rien de ce qu'ils cachent qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je vais démasquer leur hypocrisie. » Le texte qui est devant nous dans Luc 20 est un passage parallèle à Marc 12, aussi un texte bref. Mais il y a un autre texte parallèle dans Matthieu 23. Seulement, dans Matthieu 23, cela prend tout un chapitre. Le texte complet de ce que Jésus dit des pharisiens et des scribes se trouve dans Matthieu 23. Vous pouvez le lire par vous-même. Nous n'allons pas le lire ensemble aujourd'hui, mais c'est un texte complet de ce que Jésus a dit ce mercredi dont Luc nous donne seulement un petit passage. Il s'agit d'une dénonciation cinglante, une critique cinglante des faux chefs religieux. Ce n'est pas une conversation, il n'y a pas de collégialité, pas de dialogue, pas de coopération. C'est une confrontation et une condamnation, sans compassion, non. Souvenez-vous de Luc 19, 41. Lorsqu'il est entré dans la ville, qu'a-t-il fait? Il a pleuré. Et nous entendons encore qu'il leur a déclaré qu'il est le Messie, fils de David et fils de Dieu. C'est encore un effort miséricordieux pour déclarer qui il est. Cette époque est pleine de tristesse pour lui, et pleine de compassion alors qu'il les invite à croire. Mais une fois que la compassion est épuisée et que les invitations ne sont plus d'actualité, vient la condamnation. Regardons maintenant au texte. Trois points. Une mise en garde, une définition, une condamnation. Toute personne qui a un point de vue corrompu de Jésus-Christ et de l'Évangile est sous la condamnation. Toute personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas le Père. Si vous ne connaissez pas le Fils, vous ne connaissez pas le Père. 1 Jean 2. Regardons à la mise en garde. C'est très simple. Gardez-vous des scribes. Gardez-vous des scribes. Dans le long récit de Matthieu de la condamnation de Jésus, il met en garde contre les scribes et les pharisiens. Les scribes étaient des pharisiens. Ils étaient experts de la loi. tous les pharisiens n'étaient pas des scribes, mais les scribes étaient des pharisiens. Il y avait des pharisiens qui n'étaient pas des scribes, mais les scribes étaient des pharisiens. Ils étaient experts de la loi. Ils étaient la secte légaliste et suffisante. En fait, les Juifs avaient l'habitude de dire la chose suivante. Moïse a reçu la loi et l'a donnée à Josué. Josué a reçu la loi et l'a donnée aux anciens. Les anciens ont reçu la loi et l'ont donnée aux prophètes. Les prophètes ont reçu la loi et l'ont donnée aux pharisiens et aux scribes. Ils étaient les gardiens de la loi de Dieu. Ils étaient ceux à qui on faisait confiance. Ils étaient des experts. Ils étaient les juristes d'Israël. Souvenez-vous que nous sommes dans un royaume théocrate où toute la loi est vue comme la loi de Dieu, non seulement comme la loi biblique, mais la loi de la tradition, les lois qui ont évolué au fil des années. Toute la mosaïque de la loi était considérée d'un point de vue théocratique. Il s'agissait de toute la loi de Dieu. Ceux qui connaissaient donc la loi de Dieu, interprétaient la loi de Dieu et appliquaient la loi de Dieu étaient les juristes d'Israël. Ils ne donnaient pas simplement la compréhension des Écritures aux pharisiens, aux rabbins et aux prêtres et à d'autres. Ils interprétaient aussi la loi, et non seulement dans l'interprétation, mais aussi dans son application. Ils étaient les juristes d'Israël, ils s'occupaient de toutes les questions légales. Ils étaient la force dominante du judaïsme, non seulement sur le plan religieux, mais aussi social. Ils s'occupaient de toutes les questions légales pour le peuple, la propriété, l'immobilier, les contrats, les résolutions. Toutes ces choses étaient entre les mains de ces juristes. À l'époque, ce n'était pas différent de maintenant. Tous les sujets légaux s'entrent entre les mains des juristes. Tout était effectivement entre les mains des scribes. Mais, de leur point de vue, tout était sacré. Tout jugement qu'ils rendaient et toute décision qu'ils prenaient était en fait supposé être une représentation de Dieu et de la volonté de Dieu. Une délégation du pouvoir de Dieu, si vous voulez. Puisqu'ils étaient alors les agents de Dieu, ils portaient un énorme poids et une grande confiance. Les gens n'avaient personne vers qui se tourner, car il n'y avait pas d'autre personne que les scribes pour s'occuper de toutes leurs affaires. Ils mettaient tout le monde en garde, la foule comme les disciples, de faire attention. Prosechete apo, prenez garde, protégez-vous. Comment pouvez-vous faire cela? Comment allez-vous faire cela? Parce qu'ils sont partout. Comment allez-vous vous extraire de cet environnement théocrate où tout tombe entre les mains des scribes et ils appliquent leur volonté dans tous les domaines? La dernière chose que Jésus leur dirait est « Ce sont de bons gars, ils ont des intentions religieuses, ils ont une certaine compréhension des choses spirituelles, ayons une conversation avec eux, repoussez-les, fuyez loin d'eux, comme Jude 23 le dit, vous allez vous tâcher, vous allez vous brûler si vous vous approchez trop. » Pourquoi constituent-ils une telle menace? Parce qu'ils ne sont pas saints. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas de sagesse spirituelle. Ils sont destructeurs. Ils sont des agents de Satan pour lutter contre les buts de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une notion de base. Et je l'ai dit de nombreuses fois au fil des années, la fausse religion ne restreint jamais la chair. Ces gens agissent tous comme le pire des personnes qui ne sont pas régénérées. Sauf que c'est une apparence en surface. Les fausses religions peuvent soumettre les cœurs vulnérables qui ne peuvent être soumis à Dieu que par la régénération. Cela ne peut arriver que par le moyen de la vérité de l'Évangile. Ils vont donc toujours paraître à l'extérieur et être quelqu'un d'autre à l'intérieur. Attention à eux, ils ne sont pas saints. Ils n'ont rien de spirituel à offrir. Ils sont mortels, ils sont dangereux. Ne vous approchez pas d'eux, ou vous allez vous brûler, vous tâcher, restez éloignés. C'est pourquoi le psaume 1, aussi basique soit-il, dit au début des psaumes, leçon 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne vous approchez pas d'eux. » De la mise en garde vient la définition. Voici comment il les caractérise, au verset 46. Il est écrit, « Qui aime à se promener en robe longue et à être salué dans les places publiques, qui recherche les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévore les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence, de longues prières. » Tout ceci se résume en un mot, hypocrite. Toutes les personnes impliquées dans une fausse religion sont hypocrites. Elles ne connaissent pas Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. On ne peut arriver à ce point que par Christ. Notre Seigneur n'y va pas par quatre chemins. Le point principal, c'est que ce sont tous des charlatans spirituels, ce sont tous des escrocs spirituels. Son auditoire devait avoir l'habitude du genre de choses qu'il faisait. Passons-en 6 en revue. Premièrement, ils aimaient se promener en longue robe. Le mot grec est le mot stole, qui signifie une robe qui touche le sol. Et ils ont commencé à créer des robes très différentes des robes des autres personnes. Il y avait certaines choses sur ces robes, des marques et des fantaisies. Elles sont devenues des robes uniques, fantaisies et chères, qui les identifiaient comme étant les saints. Ils portaient de longues franges à leurs vêtements, dit Matthieu 23, 5. Cela vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre 15, des versets 38 à 40, Dieu avait ordonné que les Juifs puissent porter des petites franges au bas de leurs robes, et c'était un merveilleux petit symbole qui leur rappelait la loi de Dieu. Où que vous alliez, vous pouvez les voir. Elles rappellent la loi de Dieu. Jésus en avait sur sa robe, selon Matthieu 9, verset 20. C'était habituel. Mais les scribes et les pharisiens ont allongé leurs franges, non pas pour mieux se souvenir, mais pour mieux paraître, dans un but ostentatoire. Ils n'essayaient pas d'attirer l'attention vers Dieu et sa parole. Ils essayaient d'attirer l'attention sur eux-mêmes comme s'ils étaient saints. C'était une façon de se positionner, de montrer qu'ils pouvaient atteindre leur but. Et leur but était de s'ingérer dans la vie des gens, de les tromper et de les utiliser pour que leur propre volonté s'accomplisse. C'est pourquoi ils portaient des vêtements particuliers. Je pense à cela chaque fois que je vois quelqu'un revêtu d'un habit religieux ridicule, paradant comme si cela était une indication de grande sainteté. Au lieu de petites choses au bas de leur robe pour signifier leur soumission à la loi de Dieu, ils avaient créé le genre de robe qui leur donnait un certain statut. C'est encore le cas aujourd'hui. Des robes religieuses sont portées. Deuxièmement, ils aimaient les salutations respectueuses dans la ville. En rencontrant et en quittant les gens dans leur vie quotidienne, la vie publique, ils s'attendaient à ce qu'on s'adresse à eux avec des titres honorifiques. Retournons à Matthieu 23. Dans ce récit complet de Matthieu, des paroles de notre Seigneur à leur sujet, il nous parle spécifiquement des titres particuliers qu'ils aimaient. Il est dit, au verset 7, qu'ils veulent que les hommes les appellent « rabbi ». Il s'agit de la transcription littérale en français « rabbi » signifiant « professeur éminent, excellence ». Le plus savant, le plus sage, l'équivalent d'aujourd'hui serait d'appeler quelqu'un docteur. Ils étaient au sommet. En fait, ils étaient élevés si haut qu'on les appelait rabbis. Ils étaient si élevés que dans le Talmud, au Sanhédrin 88, il est dit « La punition est plus grande d'agir en opposition aux paroles d'un scribe qu'en opposition aux Écritures. » Ils voulaient qu'on les appelle excellence, éminence, le plus savant, élevé au plus haut. C'est ce qu'ils recherchaient. Il voulait aussi être appelé père, au verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Père signifie source. Non seulement ils sont exaltés dans leur sagesse, mais ils sont la source de la vie spirituelle. Ils sont la source de la vérité spirituelle. Ils veulent être père, procréateur, créateur. Ils veulent porter des robes fantaisies. Ils veulent porter des titres élevés qui expriment la puissance et la dévotion. Ils veulent être appelés pères comme s'ils étaient la source de la vie spirituelle. Ils veulent être appelés directeurs, au verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Faites-vous appeler serviteur. Ils voulaient être directeur, c'est-à-dire qui détermine la direction, celui qui détermine la destinée, celui qui établit le chemin à suivre. Les faux docteurs ne sont jamais humbles. Ils portent la façade de l'humilité. Mais gardez cela à l'esprit. Si vous rejetez la vérité, c'est la chose la plus orgueilleuse que vous puissiez faire pour vous opposer à Dieu et à sa parole. Vous rejetez la Bible. Vous rejetez l'Évangile. C'est l'ultime acte d'orgueil. Les faux docteurs ne sont jamais humbles. La chose la plus orgueilleuse que l'on peut faire est rejeter la parole de Dieu, se rebeller contre elle. C'est ce qu'ils font. Puis, ils veulent être élevés par leur titre et leur habit. Troisièmement, ils aiment non seulement être salués dans les places publiques, c'est le même verbe, ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues. Ils avaient des estrades dans les premiers rangs de la synagogue. Les scribes, importants, les pharisiens, s'asseyaient sur cette plateforme, reconnue en tant qu'experts de la loi. Les scribes en visite d'autres régions s'attendaient à être conduits à cette estrade. Vous commencez à saisir le tableau? Maintenant, vous savez pourquoi je ne me fais pas appeler docteur, pourquoi je ne porte pas de robe et je ne m'assieds pas sur une estrade. C'est juste un moyen de rester en dehors de tout ça. Puis, quatrièmement, ils aiment les premières places dans les festins. Dans toutes les occasions spéciales, ils veulent la place d'honneur, proches des hôtes. Ils veulent être le centre d'attention les plus honorés de tous. C'est ce qu'ils recherchent. C'est de l'orgueil. Ces quatre choses sont liées à l'orgueil, à l'élévation. C'est ce qu'ils recherchent, les chefs religieux recherchent cela, les faux chefs religieux. Nous prenons un virage avec le cinquième point au verset 47. Ils dévorent les maisons des veuves. De quoi s'agit-il ? Premièrement, laissez-moi vous dire, le mot « dévorer » est un mot très fort. Il y a un verbe grec, « estio », qui signifie « consumer, dévorer ». C'est métaphorique. Littéralement, cela signifie « manger ». C'est le mot qui signifie « manger », mais métaphoriquement « dévorer », « consumer ». Il ne s'agit pas d'estio, mais de catestio. Toujours lorsqu'on ajoute une préposition au début d'un mot, le verbe est intensifié, c'est-à-dire consumer totalement, piller, dévorer. C'est dévorer dans le sens le plus fort. Ils en ont après les plus faibles. Comme les faux docteurs au sujet desquels Paul écrit à Timothée, ils en ont après les femmes stupides, ils en ont après les sans protection et les faibles. Ils dévorent les maisons des veuves. Les veuves sont les proies les plus faciles. Que voulez-vous dire ? Premièrement, les veuves avaient besoin de protection, n'est-ce pas ? De retour dans l'Ancien Testament, la pure religion, dit Jacques, est de prendre soin des veuves. Exode 22-22, Deutéronome 10-18, Malachie 3-5 et d'autres versets appellent le peuple de Dieu à prendre soin des veuves. Dieu prend soin des veuves, ses scribes les dévorent. Comment font-ils cela ? Gardez à l'esprit qu'ils étaient les juristes du système. Lorsqu'une femme, qui était veuve, avait besoin de quelqu'un pour la protéger, elle allait voir un juriste, espérant qu'il protège sa maison, sa propriété, toutes ces choses. Des études intéressantes ont été menées, des recherches intéressantes sur le genre de comportement en vigueur. En voici juste un aperçu. Premièrement, ils prenaient de l'argent aux veuves pour se payer, bien que ce soit interdit. Des conseils gratuits. C'était le code d'un véritable rabbi, certainement envers les veuves. Ils désobéissaient, et quelle que soit la sagesse qu'ils communiquaient aux veuves, ils les faisaient payer, et de façon exorbitante. Comment une veuve pouvait-elle se défendre ? Deuxièmement, ils volaient les veuves de leur maison en entrant dans des machinations légales, en prétendant apporter une couverture légale. Ils commençaient littéralement à dévorer la propriété de ces veuves. Troisièmement, il s'imposait et abusait de son hospitalité, profitant de chambres libres, du logement et de la nourriture. Il existe des histoires de gloutonnerie et de beuverie se passant chez des veuves. Un autre moyen était de mal gérer la propriété des veuves afin de totalement dépouiller une veuve par totale négligence. L'un des moyens populaires était de prendre de l'argent des veuves aux capacités mentales déficientes, profitant de celles qui n'étaient pas capables de se défendre mentalement. Et le pire était peut-être qu'ils accumulaient des dettes que la veuve leur devrait, encore et encore jusqu'à ne plus pouvoir payer. Ils pouvaient alors prendre la maison de la veuve en gage de dette et ainsi dévorer la maison. Lorsque la veuve ne pouvait pas payer, ils l'expulsaient. C'est pourquoi ils sont catégorisés par les paroles de Jésus. Je vais vous le relire. Luc 11, verset 39. Vous êtes plein de rapine et de méchanceté, ou par les paroles de Jésus dans Luc 16 ou les paroles de Luc, je devrais dire, dans Luc 16 au verset 14, les pharisiens qui étaient avares. Fiers et avares, c'est ce qui les caractérisait. C'est typique des faux docteurs. Ils agissaient pour leur convoitise malsaine, ils s'élevaient eux-mêmes, ils montraient une façade de spiritualité et ils trichaient avec les personnes les plus vulnérables. Il existe des juristes qui agissent ainsi. Merci Seigneur pour les juristes chrétiens et ceux qui sont intègres et qui ne font pas cela. Mais certains juristes agissent ainsi. Et vous savez une chose ? Il existe des évangélistes qui agissent ainsi, de faux évangélistes, des faux enseignants religieux qui prennent de l'argent dans les poches des gens. Et les fausses religions choisissent leur proie dans les pays du tiers-monde qui sont déjà appauvris au départ. Le dernier épisode en date se situe en Afrique, alors que les pourvoyeurs de santé, de richesse et de prospérité sont en Afrique avec beaucoup de succès. Ils sont dans une population de personnes qui sont désespérément pauvres, qui n'ont aucun avenir, qui vivent avec une maigre somme d'argent, qui sont sans défense, au bord du désespoir. On leur promet la santé, la richesse, la prospérité, ça marche très bien. Je vais vous donner une illustration. À Laos, au Nigeria, il y a une église où ce genre de choses est proclamé. Il y a une congrégation de 54 000 personnes dans l'église. Afin d'obtenir la santé, la richesse et la prospérité, il faut donner un mois de salaire au pasteur. Ceci au nom de Jésus. Dépouillant des personnes trompées, dépouillant les pauvres, dépouillant les personnes sans défense. Et ceci se répand en Afrique. Ils sont en train de construire les plus grandes églises de la planète en Afrique au nom de la santé, de la richesse et de la prospérité. Priant ou faisant des pauvres des proies qui n'ont pas d'espoir. C'est un système qui rend celui qui est à la tête riche. Donc, les faux docteurs sont fiers et orgueilleux, pas tous au même degré. Puis, sixièmement, ils font pour l'apparence de longues prières. Il n'y a rien de mal dans une longue prière. J'en ai fait quelques-unes moi-même. Mais il y a quelque chose qui ne va pas lorsque l'on fait semblant. Priez juste pour être vu. Souvenez-vous de Matthieu, chapitre 6, des versets 5 à 6, où Jésus condamne ce genre de prière dans le sermon sur la montagne, qui était si caractéristique des faux docteurs. Il dit ceci, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Une tromperie spirituelle, des charlatans qui profitent des gens. Ils font semblant. » L'expression « faire semblant » est intéressante. « Prophasei » est le mot, ce qui est placé devant pour cacher l'état véritable des choses. C'est de cela qu'il s'agit. Ils cachent la réalité de qui ils sont. C'est un manteau trompeur qu'ils portent, de longues prières. C'est un jeu auquel les faux docteurs jouent. Encore dans Matthieu, au chapitre 23, le Seigneur décrit ce genre d'hypocrisie. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Ce sont les personnes les plus religieuses d'Israël. Il y a des évangéliques qui disent aujourd'hui « Nous devons coopérer avec Israël. Nous devons être solidaires avec eux, car ils sont le peuple de Dieu, et partager leurs connaissances spirituelles. » Non, non, Jésus n'a pas eu de conversation avec les plus religieux d'Israël. Il a prononcé une condamnation. C'est pourquoi Matthieu 23, encore, lisez-le, verset 15, il est écrit « malheur », qui signifie « damnation, malédiction », au verset 16, « malheur », verset 23, 25, 27, 29, « malheur, malheur, malheur », il prononce de terribles, des horribles jugements sur eux. Au verset 33, il est écrit « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» C'est une condamnation et non pas une conversation. Retournons maintenant à Luc et voyons les dernières paroles du chapitre. Nous avons vu la mise en garde et la caractérisation. Voici la condamnation. Ils seront jugés plus sévèrement. La clé est « plus », pas moins, parce qu'ils sont religieux. Le Seigneur ne va pas les aimer tout à coup parce qu'ils sont religieux, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont moraux, parce que Dieu aime toutes les religions, et toutes les religions aiment Dieu, et Jésus aime toutes les religions, et toutes les religions aiment Jésus, c'est merveilleux. Non, il prononce sur eux une condamnation plus sévère, plus grande. Périssotéron, c'est un comparatif, crima, jugement. Périssotéron, une plus grande, excessive, une plus abondante, ou si vous voulez, une extraordinaire condamnation, plus qu'habituellement. Les personnes religieuses reçoivent une plus grande condamnation, non pas une moindre. Loin de plaire à Dieu parce qu'ils ont en quelque sorte vécu avec la vérité qu'ils connaissaient. Ils ont reçu une plus grande condamnation, surtout s'ils ont piétiné le sang de l'Alliance et considéré comme moins que saint. Hébreux 10, versets 29 à 31, rejetez Christ. L'idée est claire. Si vous n'êtes pas dans la bonne religion, vous allez être condamné. Si vous apportez une fausse religion, vous allez recevoir une plus grande souffrance et une condamnation en enfer. Ils sont dangereux. Prenez garde. Ce sont des hypocrites. Ils sont dignes de recevoir la condamnation. De la compassion? Oui. L'évangile? Donnez-leur l'évangile. Priez pour leur salut. Que votre cœur soit contrit. Mais en fin de compte, nous n'avons rien à apprendre des faux docteurs et des fausses religions. Nous devons savoir qu'elles sont sous le coup de la condamnation divine. Ils doivent savoir, pour leur bien et pour le bien de ceux qui ont besoin d'être protégés d'eux. Prions. Seigneur, nous pouvons seulement te remercier de ce que ceci est écrit dans la parole. Si nous devions parler ainsi sans avoir les clairs enseignements des Écritures, les gens auraient du mal à le supporter. Mais nous savons que c'est ton idée et ta volonté, car tu l'as placée dans ta parole. Oui, nous sommes tristes. Oui, nous pleurons sur ceux qui font partie de ces faux systèmes. Oui, nous désirons avec miséricorde leur donner la vérité, proclamant la vérité. Même ce message est une miséricorde pour tout faux docteur qui l'entend. Mais nous devons les mettre en garde face à leur condamnation à venir. Et nous devons prévenir ceux qui pourraient être séduits par eux et tomber dans cette même condamnation. Merci pour cet avertissement plein de grâce et de miséricorde. Et nous te remercions, Seigneur, pour la vérité. Nous te remercions de ce que nous, qui te connaissons, nous sommes venus à la vérité grâce à ta puissance et à ton esprit. Nous voulons venir ensemble et voir ce que Moïse, Ésaïe, Paul et Jean voulaient dire, car c'est toi qui as parlé dans les Écritures. Et nous ne voulons même pas répondre, nous voulons simplement parler. Nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à offrir. Nous ne pouvons pas améliorer ta parole. Nous n'allons pas trouver une meilleure compréhension dans une conversation avec n'importe qui, n'importe où, surtout avec ceux qui sont morts dans le trépas et dans le péché et vides de vérité. Donc, Seigneur, que nous puissions seulement nous incliner face à ta parole et avec joie face à ta parole, car elle est la vérité, et la vérité nous libère. Nous prions au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.